Pour les plus jeunes, on a des fiches que vous pouvez regarder qui résument le message de Galates. C'était un ministère de Lucille qu'elle voulait faire pour les enfants. Donc, vous pouvez colorer, bien sûr, mais ça résume aussi ce que Paul veut nous dire en Galates. Donc, vous pouvez demander à vos parents de vous expliquer ce qui se trouve sur les fiches. On n'a pas payé. Ah, voilà. D'accord, on revient maintenant envers Galates, la lettre aux Galates qui a été écrite par Paul. Et on avance maintenant au chapitre 2. D'accord? Mais au début de chapitre 2, on va lire 5 versets et ces 5 versets se trouvent toujours dans l'argumentation de Paul et il veut démontrer qu'il ne pouvait pas obtenir son ministère, son évangile de l'homme. Parce qu'au chapitre 1, il a dit, d'accord, vous savez qu'avant, j'étais contre l'évangile, contre l'Église, donc ce que je prêche, je ne pouvais pas apprendre de l'Église à cette époque-là. Ma conversion était immédiate, miraculeuse. Mon appel était par révélation aussi. Et tout de suite après, je suis parti en Arabie. Et on a vu sur la carte que ça, c'était loin de Jérusalem. Après 3 ans, il est revenu à Damas. Il a passé 15 jours avec Pierre pour faire la connaissance de Pierre. Et après, il est parti à nouveau pour prêcher à la fin du chapitre 1. Les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Et on a vu que ça, c'était même plus loin nord, au nord de Damas, et vraiment, vraiment loin de Jérusalem et les apôtres. Et dans cette argumentation, il voulait dire, d'accord, l'évangile que je prêche ne vient pas de l'homme. Et maintenant, chapitre 2, on va continuer et lire chapitre 2, les versets 1 à 5 ensemble. Il continue écrivant 14 ans après, et moi, selon moi, ça c'est 14 ans après sa conversion. Bon, on ne sait pas mais exactement, mais ça c'est ce que je pense. Je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et aussi pris Tite avec moi. Cela veut dire que plus que 10 ans sont passés depuis qu'il est allé rendre visite à Pierre. Chapitre 2, le verset 2. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens, les non-juifs. Et les enfants, sur la fiche, vous avez les juifs et les non-juifs. C'est très important. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, non juif, ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir, de nous rendre les esclaves. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Ce sont les paroles de Dieu qu'on va considérer ce matin. Et le titre que j'ai donné à notre prédication pour ce matin, c'est la vérité de l'Évangile maintenue. Continuer. Et ça, c'est ce qu'on va considérer. On va juste regarder ces quatre points, pour que vous sachiez où on va. Pour maintenir l'Évangile, nous devons être courageux. Pour maintenir l'Évangile, nous devons agir avec discernement. Pour maintenir l'Évangile, nous devons rester fermes. Et pour maintenir l'Évangile, nous devons penser à ceux qui sont dehors. D'accord? Ça, c'est les quatre points. Mais juste avant, on va faire une petite introduction. On est 14 ans après la conversion de Paul et il retourne à Jérusalem. Mais pourquoi? Il dit qu'il retourne en raison d'une révélation. Et cela veut dire quoi? Qu'il n'était pas convoqué. Moi, je dois toutes les... Bon, avant, c'était tous les ans, maintenant, c'est tous les 10 ans. Je suis convoqué d'aller parler avec le gouvernement de la France pour demander si je peux rester en France. Parce qu'ils ont de l'autorité sur moi. Paul dit, non, non. Les apôtres de Jérusalem n'ont pas convoqué que je suis venu. C'était par une révélation de Dieu que je suis allé. C'est-à-dire, il était toujours indépendant de l'autorité des autres apôtres de l'Église qui étaient à Jérusalem. Et Paul y retourne pour exposer l'Évangile qu'il prêche aux principaux dirigeants à Jérusalem. Pour expliquer, pour montrer, voilà ce que je prêche. Et il voulait parler aux personnes qui semblent être de plus importants dans la direction des églises, de l'église à Jérusalem. Et ça, c'est une question de quand, d'accord? Et je vous mets ici les visites de Paul à Jérusalem qui sont racontées en Actes, d'accord? En Actes chapitre 9, je pense que ça va avec Galates chapitre 1, la première visite de 15 jours. En Actes chapitre 11, les versets 27 à 30, ça c'est la visite de Paul quand il a apporté un don financier des églises non-juives pour les juifs parce qu'il y avait quoi? Une famine. Et pas mal de personnes pensent que la révélation que Paul a reçue, c'était la révélation qu'il y aura une famine et que les églises non-juifs ont envoyé un don, un cadeau, pour exprimer le fait que nous sommes avec vous, nous faisons partie du même corps. D'autres personnes, d'accord, ça c'est un peu l'enseignement sur le passage, d'accord, d'autres personnes disent non, Galates chapitre 2 correspond avec Actes chapitre 15, qui est le conseil de l'église, des églises, pour dire que non, les non-juifs ne sont pas obligés de devenir juifs pour être vraiment sauvés. Pour moi, ça c'est pas la meilleure solution. Et pourquoi pas? Rappelons-nous, hein, Paul, en Galates chapitre 1, qu'est-ce qu'il veut dire? L'évangile ne vient pas de qui? De l'homme avec un grand H. L'origine de mon évangile, c'est Dieu lui-même. Et quelles sont ses preuves? Il veut démontrer qu'il n'était jamais à Jérusalem pour recevoir l'enseignement qu'il a eu, l'évangile qu'il prêche. Imaginons maintenant, d'accord? Il dit, vous savez que je suis allé pour 15 jours. Et ensuite, je suis allé par révélation ici. Mais il y avait des personnes qui savaient qu'il était là cette fois-là, mais ils ne mentionnent pas cette visite. Qu'est-ce qu'ils vont penser? Paul, pourquoi tu ne parles pas de cette visite? Qu'est-ce qui s'est arrivé ici? Pendant ce temps-là, est-ce que tu as reçu, est-ce que tu veux cacher quelque chose? Mais ce que Paul veut dire, c'est clairement, il veut raconter toutes les visites qu'il a eues en ordre pour qu'il sache qu'il n'a pas reçu l'évangile des apôtres, des personnes à Jérusalem. Et si pendant ces 10 années, si c'est vraiment Acte 15 qui correspond à Galates 10, Galates 2, si pendant ces 10 années, il ne parle pas d'une visite, les personnes vont dire à mes Paul, pourquoi tu ne parles pas de cette visite? C'est pourquoi je pense que maintenant on est ici. Voilà, c'est juste ça. Mais on peut avancer. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? L'évangile de Paul a été confirmé quand Tite n'était pas forcé de se faire circoncis. Voilà. Les Juifs pratiquaient toujours, même les Juifs qui étaient en Christ, pratiquaient la circoncision. Tite, qui n'était pas juif, est allé, il a rencontré les dirigeants de l'Église à Jérusalem. Paul a expliqué ce qu'il a prêché. Et ils ont dit, d'accord, ça c'est bon. Tite n'est pas obligé de se faire circoncire. Et voilà, c'est la preuve que l'évangile de Paul était le même évangile de l'Église de Jérusalem, l'Église qui a prêché les autres apôtres. Et donc cette victoire, d'accord, je résume, cette victoire pour Paul maintient la vérité en ce qui concerne l'évangile pour les non-juifs. D'accord? Il ne faut pas changer ce que Paul a prêché. Ça, c'est un peu le résumé de ce que nous avons lu. Hein? On est tous ensemble. Ce que je veux faire ce matin, c'est de voir ce que nous devons apprendre de cet épisode dans la vie de Paul. Et la première chose que je voulais qu'on voit, que c'est nous devons être courageux. D'accord? C'était quoi l'atmosphère à Jérusalem à cette époque-là? D'accord? On va lire juste quelques passages. Je les projette sur le mur, mais Actes chapitre 21, c'est un peu plus tard, mais c'est dans le même air dans la vie de Paul. Quand il parle des apôtres qui étaient à Jérusalem, quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent à Paul, tu vois, frère Paul, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi de Moïse. C'est leur culture. Or, ils ont appris que tu, Paul, enseignes à tous les Juifs qui sont parmi les païens, les non-Juifs, à renoncer à Moïse, la loi, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Ça, c'était la réputation de Paul à Jérusalem. Et je peux imaginer, Paul, parce qu'il a grandi à Jérusalem, Il a étudié la loi en dessous de Gamaliel, un grand enseignant de la loi. Il est parti de Jérusalem et maintenant il est un peu comme le fils prodige. Hein? Il est là et maintenant tout le monde souffle un peu. Ils disent, mais vous savez, Paul, il enseigne tous les Juifs qui sont ailleurs de ne pas observer la loi de Moïse. Mais nous sommes zélé pour la loi de Moïse. Et Paul, il n'est pas bête. Il a été persécuté partout par les Juifs. Il savait, j'ai pas la meilleure réputation du monde avec les Juifs. On peut continuer. Chapitre 21, un peu plus tard, verset 27. Il est allé à Jérusalem et les chrétiens là-bas ont dit, est-ce que tu peux faire telle et telle chose pour démontrer que tu n'es pas contre la loi de Moïse? Il a dit, d'accord, je vais le faire. Et qu'est-ce qui arrive? À la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie, les Juifs qui viennent d'où Paul était quand il faisait son ministère, la prédication, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme israélite, au secours, voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. » Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. C'est chaud. C'est chaud là-bas, à Jérusalem, en ce qui concerne Paul. Et on continue à lire, car ils avaient vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville, et ils croyaient que Paul avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut en émoi, et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple, dont les portes furent aussitôt fermées. Et ils voulaient le tuer. D'accord. Ce n'était pas facile ce qu'il a dû vivre là-bas. Et je vous demande, d'accord, si vous étiez Paul, et vous saviez que les Juifs à Jérusalem étaient zélés pour la loi. Et c'était par révélation, tu savais que par révélation, il fallait aller à Jérusalem. Et tu dis, d'accord, Barnabas, tu viens avec moi, il est un bon Juif. Hein? Est-ce que vous décidez vous-même de prendre avec vous un non-Juif, croyant? Ou est-ce que vous décidez, non, on ne veut pas troubler les choses, ils sont zélés là-bas, on va laisser nos frères non-juifs ici, on va prendre une délégation des Juifs. Le choix de Paul d'inclure titre à un non-juif qui n'était pas circoncis était courageux. C'était courageux. Pour dire, d'accord, moi, je vais aller parler avec les dirigeants les plus importants de l'Église de Jérusalem. Et moi, je choisis de prendre avec moi Tite, qui n'est pas circoncis, qui est un frère. C'est un peu comme Paul veut provoquer un peu une conversation, n'est-ce pas? Ça exige beaucoup beaucoup, beaucoup de courage. Est-ce que nous sommes courageux comme ça? Est-ce que nous cachons un peu les choses, la vérité, quand nous savons que ça va provoquer un peu discorde, un peu de retour envers nous? Même avec les personnes qui croient. Est-ce que nous avons du courage? Pour maintenir la vérité de l'Évangile, nous devons être un peuple qui est courageux, qui ne cache pas ce qui est la vérité. On ne peut pas éviter des conflits autour de l'Évangile afin de maintenir une paix superficielle. Et même dans notre histoire en tant qu'une église, juste après avoir signé le contrat pour cette salle, l'église catholique, le prêtre là-bas m'a écrit pour dire, est-ce que nous pouvons avoir une réunion ensemble pour les jeunes de prier, de louer Dieu? Ah, si on dit non, est-ce qu'il va terminer le contrat? Est-ce qu'ils vont faire monter le prix? Quelles sont les conséquences si on dit non? Mais qu'est-ce que nous pouvons dire? Est-ce qu'on peut aller et prétendre qu'il n'y a pas des différences entre nous? Des différences fondamentales, essentielles? Non, on doit dire merci pour l'invitation. On respecte votre droit de croire comme vous voulez, mais nous ne pouvons pas louer le Seigneur ensemble, nous ne pouvons pas prier le Seigneur ensemble parce que ça va cacher ce qui est la vérité de l'Évangile. Est-ce que nous sommes courageux? Nous devons rester courageux. Deuxième chose, nous devons agir avec discernement. Il faut discerner d'abord les conséquences. Je dis à mes enfants, la sagesse pour un garçon, c'est de voir que quand on veut lancer un ballon, que derrière l'autre enfant, il y a une fenêtre. Ça, c'est la sagesse. Bon, la sagesse, c'est de ne pas lancer quand même, hein, d'accord. C'est de voir les conséquences qui peuvent arriver. D'accord. Ça, c'est le discernement aussi pour nous. On ne peut pas permettre, je parle comme Tite, comme Paul, Paul ne peut pas permettre que Tite soit circoncis parce que il a vu les conséquences afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Est-ce que cela veut dire que Paul pensait que si les dirigeants de l'église de Jérusalem n'étaient pas d'accord avec moi, je dois changer mon évangile? Non, il a déjà dit, j'ai reçu par révélation l'évangile que je prêche. Mais imaginons si à cette époque-là, l'église à Jérusalem a dit, Paul, tu dois être circoncis. Sinon, ce n'est pas le vrai évangile. Je pense que Paul il dirait, d'accord, vous trompez et je continue quand même. Mais imaginons la conséquence pour tous les non-juifs et pour les autres que maintenant on a l'église à Jérusalem qui dit une chose et Paul qui dit une autre chose. La confusion pour tous les non-juifs. Et Paul, il a reconnu, il a discerné une conséquence. S'il a dit d'accord pour avoir la paix, d'accord, Tite, c'est pas grave, on va te faire circoncis. Il a discerné aussi l'intention des autres personnes avec l'intention de nous asservir, de nous faire des esclaves à nouveau. Il aura pu dire, d'accord, pour avoir la paix, c'est pas grave, on va faire la circoncision ici, et tout va bien. Mais il a vu la conséquence, non, si on fait un pas ici, ça va terminer avec l'esclavage du peuple de Dieu. Il faut le discernement pour voir quelles sont les ramifications de ce qui va arriver. Le discernement est afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue parmi vous. Et ça, c'est le plus grave. Parce que si ils cèdent ici, et les églises qui sont à Galatie, Éphèse, tous les non-juifs, ils attendent maintenant, non, crois, on n'est pas justifié uniquement par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, il faut observer en plus la loi. Où est l'Évangile? Où est la bonne nouvelle? Il a discerné ces choses. Et la question pour nous en tant qu'une Église, est-ce que nous avons ce discernement par le don de l'Esprit? Pour voir que parfois, il ne faut pas éviter un conflit afin que nous puissions éviter des mauvaises conséquences. Vous voyez ce que je dis? Ce n'est pas seulement en Église, c'est tous les individuels qui sont là. Est-ce que nous avons le discernement pour voir les conséquences? Mais aussi, il faut discerner quand une chose neutre ou même une bonne chose devient mauvaise. D'accord? Ça, c'est des difficultés, n'est-ce pas? Quelqu'un arrive en disant, il faut rejeter Jésus-Christ comme Dieu. Et nous disons, bon, pff. Ça, c'est facile. On dit non. Si quelqu'un arrive qui dise, il n'y a plus la loi, on peut être tous immoraux comme on veut parce que ce qui est matériel ne compte pas. Et nous disons tous, non. Mais quand une chose qui est neutre ou même bon arrive, et ça devient mauvaise, ça c'est plus difficile de discerner. Et donc, je veux juste vous rappeler que la circoncision, c'était quoi? C'était donné par Dieu. Il a donné à Abraham, et je vous cite juste le verset 14 ici. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est assez grave. On peut imaginer pourquoi la circoncision était très importante pour les Juifs, n'est-ce pas? C'est pas fou. Donc, on a une bonne chose, la circoncision. Au moins, une chose qui est neutre, parce que en 1 Corinthiens chapitre 7, Paul n'était pas par force contre la circoncision. Il dit seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements de Dieu est tout. Est-ce que vous voyez? C'est neutre. C'est neutre, la circoncision. Et on voit en acte 16, c'est neutre, et c'est pourquoi Paul voulut l'amener avec lui, Timothée, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Ok, Paul, d'accord. Hein? Timothée, tu fais circoncire. Tite, non. Et quelle est la différence? Parce que c'est ici, c'est exigé par l'amour. Il ne voulait pas mettre un pierre d'achoppement devant les autres pour qu'ils soient révoltés par leur message. Pas par le message, mais par les messagers. Mais en Galate, on a des personnes qui voulaient exiger pour le salut la circoncision. Et à ce stade-là, c'est plus l'amour pour Paul. Il dit non, l'amour me force de refuser. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans la Bible, la circoncision, c'est neutre. Mais c'est une chose neutre qui est devenue mauvaise. Vous voyez? Il y a des choses dans nos vies et dans notre monde qui sont neutres, mais qui devient mauvaise pour nous. Une chose neutre ou même bonne devient mauvaise quand on considère qu'elle est essentielle pour notre justification devant Dieu. Vous voyez? Une chose neutre devient mauvaise dans ce contexte quand on considère qu'elle est essentielle pour notre justification devant Dieu, pour que Dieu nous déclare juste. D'accord? Et j'ai essayé cette semaine de réfléchir. Est-ce qu'on a des exemples d'aujourd'hui? Hein? D'accord? Parce que on peut vivre dans le passé, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a des exemples pour nous? Et donc, il y a deux cas types. de la viande halal. D'accord? D'accord, juste imaginons. D'accord? Imaginons que Dieu fasse quelque chose et qu'un groupe de personnes qui viennent des pays musulmans veulent assister à nos cultes. Ils ne sont pas chrétiens, mais ils sont très intéressés et ils veulent être avec nous pour toutes nos réunions, même le repas, parce qu'ils veulent apprendre l'évangile de Jésus-Christ. Et nous disons, ah, ça c'est différent. Et par amour pour eux, on va manger halal. D'accord? C'est la décision de notre église. Plus de porc, et on achète de la viande qui est halal. Mais on fait par l'amour pour eux, pas parce que nous sentons obligés. Mais imaginons qu'après 6 semaines, un homme, il se lève, il dit, je veux dire quelque chose. Moi, je suis très content parce que vous voyez comme nous qu'on ne peut pas manger de la viande qui n'est pas halal et être justifié devant Dieu. Et nous disons, oh là là, quelque chose ne se communique pas. Et on essaie d'expliquer, non, on a choisi par l'amour, mais on a le droit de manger n'importe devant Dieu. Parce qu'on n'est pas justifié devant Dieu par ce que nous mangeons. Et ils disent, non, je vois par ce que vous faites, que vous croyez comme nous. Et tout d'un coup, je vais dire, David, allez, va acheter du porc. D'accord? Parce qu'on doit manger du porc, et pas pour porter l'offense, mais pour démontrer que nous sommes libres en Jésus-Christ, que notre justification est uniquement par la foi. D'accord? On peut choisir de ne pas manger par amour, mais une chose neutre peut devenir mauvaise si on croit ce qui n'est pas vrai. Et on ne peut pas accepter l'imposition de la loi pour être justifié devant Dieu. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire dans cette illustration? Une deuxième. La doctrine de la justification selon l'Église catholique romaine. Wow. Tais-toi, Michael, hein, on dit. Mais je ne veux pas être méchant, mais on est protestant parce qu'il y a quelque chose qu'il faut être protesté. D'accord? Donc, je vous cite. Ça vient de leur catéchisme. D'accord? Sous la motion de la grâce, l'homme se tourne vers Dieu et se détourne du péché, accueillant ainsi le pardon et la justice d'en haut. La justification comporte donc de la rémission des péchés, la sanctification et la rénovation de l'homme intérieur. Est-ce que vous voyez ce que ça veut dire? D'être justifié devant Dieu inclut la sanctification, la rénovation de l'homme intérieur. Je vous pose la question, est-ce que vous êtes justifié devant Dieu aujourd'hui? Oui? Est-ce que vous êtes entièrement rénové dans l'homme intérieur? Oui? Est-ce que vous êtes totalement sanctifié aujourd'hui? Non. 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 Bon, Jean-Jacques pense peut-être, mais je vais demander à Lucille, elle va dire non. La sanctification, et ici, il ne parle pas du fait qu'on est mis à part en Jésus-Christ, mais qu'on est changé, on est délivré de tous nos péchés. D'accord? On continue. L'initiative appartenant à Dieu dans l'ordre de la grâce, personne ne peut mériter la grâce première. à l'origine de la conversion, du pardon et de la justification. Sous la motion de l'Esprit Saint et de la charité, nous pouvons ensuite mériter pour nous-mêmes et pour autrui les grâces utiles pour notre sanctification, pour la croissance de la grâce et de la charité, comme pour l'obtention de la vie éternelle. Le mérite pour la vie éternelle. Les biens temporels, eux-mêmes comme la santé, l'amitié, peuvent être mérités suivant la sagesse de Dieu. Ces grâces et ces biens sont l'objet de la prière chrétienne. Celle-ci pourvoit notre besoin de la grâce pour les actions méritoires. Ça vient d'un site vatican.va. Bon, je n'ai pas inventé moi-même. Ça, c'est dans le catéchisme. Qu'est-ce que cela veut dire? On est justifié et la justification inclut la sanctification qui est le changement de nos vies pour être sans péché. De plus en plus. On peut mériter des choses par nous-mêmes pour l'obtention de la vie éternelle. Et c'est pourquoi il fallait avoir la doctrine purgatoire. Parce que c'est clair que les personnes dans l'Église meurent et ils ne sont pas parfaites, n'est-ce pas? Bon, des personnes, ils font partie de l'Église, ils croient, ils prennent tous les sacrements, ils meurent et c'était clair qu'ils étaient des pécheurs. Et maintenant, il faut avoir un temps où ils peuvent payer. Il peut être purifié afin qu'il puisse être justifié devant Dieu. C'est pourquoi il y aura aussi le trésorier de la grâce. Des personnes qui étaient hyper bons, hein, hyper saints pendant cette vie, ils ont eu suffisamment de grâce pour entrer dans la présence de Dieu, pour être justifiés, et ils en avaient encore un peu plus. Et donc, on a pris l'excès, on a mis dans un compte, et parfois, quand les personnes comme Michael vivent, hein, ils ne sont pas très bons, donc on va prendre un peu de cette grâce pour Michael, parce qu'il a besoin de plus. Est-ce que vous voyez comment ça touche sur l'Évangile? Ce n'est plus seulement Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ plus un peu d'effort pour être justifié devant Dieu. Est-ce que nous pouvons accepter ça? Cacher ça? Prétendre que la différence n'existe pas pour qu'on puisse avoir la paix? Oui, on peut le faire. Mais quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences pour les autres? Et ça, c'est deux exemples qui viennent de l'externe, les personnes qui imposent un peu sur nous. Mais quelles sont nos tentations à nous? D'accord? Imaginons qu'un groupe de 20 personnes qui viennent des pays arabes deviennent chrétiennes. Et dans ce groupe, les personnes veulent s'attacher à nous pour louer le Seigneur avec nous. Mais selon leur culture, ils s'expriment différemment, ils s'habillent différemment, ils agissent différemment. Est-ce que nous sommes prêts de dire d'accord? On vous accepte comme ça. On n'exige pas que vous deveniez occidental. Nous n'exigeons pas que vous vous exprimez comme nous. Est-ce qu'on dit? On est libre en Jésus-Christ. On n'ajoute rien à Jésus-Christ pour être justifié devant Dieu. Nous devons avoir le discernement pour les autres, mais aussi pour nos propres cœurs. Parce que si nous fermons les yeux et nous imaginons c'est quoi un chrétien qui est le meilleur chrétien qu'on peut imaginer, normalement c'est un peu un peu comme nous. On ne peut pas imaginer les personnes qui sont différentes. On imagine ceux qui sont comme nous, habillés comme nous, qui chantent comme nous, qui lient comme nous, qui agissent comme nous. On doit être prêt d'accepter les autres en Jésus-Christ. Ah voilà, nous devons rester fermes. Auquel nous n'avons pas cédé par soumission, non pas même un moment. Nous ne pouvons pas nous conformer aux exigences qui rajoutent quelque chose à l'Évangile. Ça, c'est clair. Mais notre fermeté doit être constante. Il a dit, même pour un moment. Et je peux imaginer les personnes là, Paul, t'es têtu. Tu es têtu, Paul. Pourquoi tu dois être comme ça? Et ça, c'est difficile d'être une personne comme ça. Parce que c'est rare qu'on veut que les autres ne nous aiment pas. On veut être aimé. Mais voilà, on doit rester ferme et constante. On ne permet pas que l'Évangile soit changé. Et le quatrième point, nous devons penser à ceux qui sont dehors. J'étais ému par le fait que le verset 5 y termine « Afin que la vérité de l'Évangile soit maintenue. » Il n'a pas terminé comme ça, comme la vérité elle-même doit être maintenue. Maintenue parmi vous et pour vous. Il avait ces personnes à l'esprit. C'était son amour pour les autres. Et moi, je pense, nous devons penser toujours à ceux qui sont dehors. Des personnes qui ne sont pas en Christ, des personnes qui sont, pour nous, peut-être même un peu bizarres, différents. Ils ne sont pas comme nous. Mais nous devons maintenir l'Évangile de la bonne nouvelle de Jésus-Christ avec toute sa liberté pour eux, pour qu'ils puissent voir que Dieu les aime, que Dieu les appelle à venir en Jésus-Christ et devenir un chrétien, une chrétienne. Et pour nous en tant qu'une église, ça c'est le dernier appel aujourd'hui. Nous devons penser à ceux qui sont dehors. C'est trop facile en tant qu'une église de dire, d'accord, on a trouvé notre lieu. Nous avons maintenant notre local, c'est propre, il fait chaud. On peut manger ici, on peut passer tout le dimanche ensemble. Tout va bien, on s'organise de plus en plus. Et tout d'un coup, on pense seulement à nous-mêmes et on ne pense plus aux personnes qui sont là, les étudiants qui semblent être impossibles à gagner pour Christ, peut-être, parce qu'ils sont telle et telle chose. Des personnes qui sont dans ces bâtiments, les appartements ici, qui ne sont pas comme nous. Mais nous devons être clairs. Nous devons garder l'Évangile en pensant à eux, parce que l'Évangile, c'est pour eux aussi. Comment pouvons-nous maintenir l'Évangile? Il faut être courageux. Il faut avoir du discernement.